Credit lesson. Je disais tout à l'heure que la seconde épître, ou même la première d'ailleurs, à Timothée n'était pas parmi nos lectures les plus fréquentes. Elles font partie toutes les deux de ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Et pourtant, elles sont d'un grand soutien parce que, en quelque sorte, pour résumer en quelques mots, ce sont les conseils de Paul à un jeune, en tout cas jeune dans la fonction, hein, un jeune responsable de communauté. Et il lui dit ceci: ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Les choses changent moins qu'on ne le pense. Le prophète Habacuc déjà faisait état à son époque de la violence omniprésente et de l'apparente inaction de Dieu. Lui aussi se désespérait et tout ce que Dieu lui donne en réponse, c'est une promesse. Rien qu'une promesse. Sans doute serait-on en droit d'attendre davantage. Mais à en croire l'apôtre Paul, nous avons reçu davantage. Un esprit de force, d'amour et de pondération. Sans doute, Habacuc eût-il préféré quelques interventions divines plus directement efficaces. Et si la Bible mentionne bien de telles interventions divines, notre expérience, quant à elle, connaît davantage d'aides discrètes et intérieures, indirectes. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, soit. Pourtant, force m'est de reconnaître que la peur influence bon nombre de mes actions ou de mes inactions. Ce n'est pas tant la peur d'une menace physique, bien que celle-ci puisse exister, même pour nous, que la violence symbolique ou sociale dont nous pouvons être la cible lorsque nos actions ou nos simples discours divergent de celui considéré comme juste et bon par la société ou même par notre milieu social, politique ou même ecclésial. Lorsque nous ne répondons pas de la façon qu'on attend de nous. Que faire quand la peur de la violence ou de la simple peur du conflit nous interdit d'exprimer ce que nous croyons, ce que nous croyons juste? Je n'ai évidemment aucune réponse définitive à cette question et encore moins de conseils à vous donner. Ce que je sais, en revanche, c'est que nous pouvons trouver force et courage dans la prière et dans l'exemple de ceux qui nous ont précédés et qui ont su vaincre leur propre peur. Puisque vous avez choisi pour ce culte co-animé par vous, une confession de foi de Martin Luther King, je ne me trompe pas, ça n'a pas changé. Je vous propose de prendre cette figure comme exemple pour comprendre notre texte du jour, celui notamment de Timothée. Je sais, prendre comme exemple Martin Luther King n'est pas d'une originalité folle. Mais je trouve ce cas particulièrement éclairant. Martin Luther King était un simple citoyen, un pasteur parmi d'autres. C'était ni un homme de réseau, ni quelqu'un de riche, ni une célébrité. En tout cas pas à ses débuts. Bref, il était comme nous. Et donc, finalement, nous pourrions être comme lui. Il n'est pas question pour moi d'idéaliser, de sanctifier la personne de Martin Luther King. Il y a dans sa vie des parts d'ombre, des positions critiquables, bien sûr. C'est vrai aussi qu'à notre époque, il est de mode de critiquer nos prédécesseurs avec les critères d'aujourd'hui. C'est une position orgueilleuse, confortable et, disons-le, idiote. Et je refuse cette facilité, mais pourtant il n'est pas dans nos habitudes de pratiquer le culte de la personnalité. Martin Luther King était un pécheur comme chacun, chacune d'entre nous. Mais c'est un pécheur qui a su vivre l'appel que Dieu lui a adressé. Et c'est en cela même que Dieu, que sa vie peut nous inspirer. Donc, Martin Luther King, au début de son action, reçoit une menace de mort par téléphone. Déprimé, désorienté, il tourne en rond, pense à sa fille qui vient de naître et à son épouse. Et là, je cite un extrait d'un texte autobiographique de Martin Luther King. La tête dans les mains, penché au-dessus de la table de cuisine, je me suis mis à prier à haute voix. Les paroles que j'ai adressées à Dieu au milieu de cette nuit-là résonnent encore dans mon esprit. « Seigneur, je suis ici-bas en train de chercher à bien faire. Je fais ce que je pense être juste. Je prends ici position pour ce que je crois juste. Mais Seigneur, je dois avouer que je me sens faible en ce moment. Je sens que je flanche. Je suis en train de perdre courage. Aujourd'hui, j'ai peur. Et je n'ai pas le droit de le laisser voir aux autres parce que s'ils me voient faible et découragé, ils commenceront à se sentir faibles aussi. » Les gens me demandent de les guider, et si je me tiens devant eux sans force et sans courage, ils vont flancher, eux aussi. Je suis à bout. Je n'ai plus de force. Je suis au point où je ne peux pas y arriver tout seul. Il m'a semblé entendre alors une voix intérieure, tranquille et rassurante, qui disait « Martin Luther, dresse-toi pour défendre la vérité. Et voilà, je serai avec toi, même jusqu'à la fin du monde. » À ce moment-là, j'ai senti la présence du divin comme jamais auparavant. Presque aussitôt, mes craintes ont commencé à se dissiper, mes incertitudes ont disparu. J'étais prêt à tout affronter. 3 nuits plus tard, une bombe a explosé sous la véranda de sa maison, dans laquelle se trouvaient Coretta, sa femme, et son bébé. King, qui était sorti pour un rassemblement, en apprenant la nouvelle, reste dans l'incertitude quant au sort des siens. Assez curieusement, écrit-il, j'ai accueilli l'annonce de l'attentat avec calme. L'expérience religieuse que j'avais traversée quelques nuits plus tôt m'avait donné la force d'y faire face. Alors, il retrouvera sa femme et sa fille indemnes. Coretta, écrit-il toujours, n'était ni acerbe, ni affolée. Elle avait accepté toute l'affaire avec un sang-froid incroyable. L'intervention de Dieu, discrète et paisible, n'a pas révolutionné le monde. Mais elle a mis en route un homme dont l'action allait, sinon changer le monde, du moins bouleverser un ordre social profondément injuste. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Un esprit de force ou de puissance, c'est-à-dire un esprit qui nous permet d'agir, mais non un esprit de violence. La violence aveugle de celui qui, persuadé de la justice de sa cause, en vient à considérer que la fin justifie les moyens et que l'injustice d'une action peut répondre à l'injustice d'une situation. Réalité, hélas, trop souvent rencontrée. Martin Luther King a choisi la non-violence, allant jusqu'à renoncer à se défendre, suivant en cela l'exemple de son seul maître, Jésus-Christ, dont il partagera d'ailleurs le sort, celui d'être assassiné, au nom d'intérêts ou de valeurs prétendument supérieures. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour. L'amour chrétien n'est pas seulement l'amour de celui qui nous est proche, voire de celui qui nous est semblable. Il est aussi, et c'est même en cela qu'il est chrétien, l'amour de l'ennemi, de l'adversaire, du persécuteur. Si nous haïssons nos adversaires, nous ne faisons pas progresser notre cause, aussi belle et noble soit-elle. Nous la déshonorons, nous la souillons. Étymologiquement, le mot « diable » vient du verbe grec « diabalo », jeter de part et d'autre, disperser, diviser. Le diable est celui qui divise. Si nous divisons le monde en ceux qui sont avec nous et ceux qui sont contre nous, entre les bons et les méchants. Nous ne vivons pas de l'amour de Dieu. Nous œuvrons pour le diviseur. Comme j'aime à le dire, le monde se divise en deux catégories. Les gens qui divisent le monde en deux catégories et les autres. Nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Ce n'est ni de l'utopie, ni du masochisme. C'est une condition incontournable pour agir pour la justice. Aimer son ennemi n'est pas lui céder, refuser de l'affronter ou lui donner raison. C'est reconnaître en lui un alter ego, un autre moi-même, une image de Dieu au même titre que moi. Cela ne justifie en rien sa violence, qui d'ailleurs elle-même ne justifie pas ma violence. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Le troisième et dernier terme est important. Si les deux premiers, force et amour, manquent cruellement dans notre monde, je crois pouvoir affirmer que la pondération est carrément absente de notre époque. J'ai le sentiment qu'en ce moment, tout débat a une vision du monde en noir et blanc. Et quand je dis en noir et blanc, ça n'a rien à voir avec Martin Luther King, vous allez comprendre. Mais pas même en nuances de gris. Ce manichéisme n'est pas ni le discours politique, ni le discours sociétal, ni même, hélas, notre propre Église. Le mot ici, d'ailleurs traduit par pondération, signifie plutôt modération ou bon sens. Reconnaissez avec moi que notre monde manque de ce fameux bon sens qui se méfie de tout fanatisme, de tout extrémisme. Certes, le message de l'Évangile nous invite à une forme de radicalité, c'est-à-dire un refus du relativisme où tout vaudrait tout, mais il exclut le fanatisme qui veut faire disparaître ce que l'autre représente, voire simplement faire disparaître l'autre. La radicalité de l'Évangile ne saurait faire taire cette certitude. Dieu peut me parler, y compris par la bouche de mon ennemi. Ce qui est juste et bien, ce n'est pas ce que j'ai déclaré comme tel, mais ce que Dieu a décrété. Le fanatisme, c'est tuer la parole de Dieu en refusant de l'écouter. C'est transformer une parole de vie en lettre morte. L'Évangile n'est pas la bonne nouvelle de la victime et la mauvaise nouvelle du bourreau, mais la bonne nouvelle et la libération de l'un et de l'autre. Bien sûr, ça peut paraître injuste. Nous aimons bien que le méchant soit puni à la fin. Mais ce qu'il faut alors remettre en question, ce n'est pas l'Évangile, mais c'est notre conception de la justice. Agir d'une telle façon nécessite le don de l'esprit et de la foi. Le don de l'esprit nous est promis, mais aurons-nous assez de foi ? Lorsque les disciples demandent à Jésus d'augmenter leur foi, il leur répond « Si vous aviez de la foi, gros comme un grain de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Un tout petit peu de foi suffit pour commencer. Amen.
Amen.